Bonsoir et bienvenue en direct et en public pour un podcast Perdusa consacré aux séries télévisées de l'été et un bref retour sur les quelques mois qui nous séparent de la dernière émission. Ce soir, vous pouvez retrouver autour du micro Jérôme,
bonjour.
GG pour les intimes, GG, bonsoir.
Bonsoir.
Et Tigrou.
Bonsoir.
Tigrounet pour les intimes. Oui, non mais Julien, c'est Jus. On va pas se faire paver les femmes.
Non, c'est pas Guise.
Vous appelez tous Julien ou Jérôme.
Et on moi-même, a aussi Iris avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc on va commencer directement sans trop d'introduction, puisque ça fait quand même 3 heures qu'on débat et que j'écoute ces hommes débiter ineptie sur ineptie sur
non,
le
tu
sexisme.
Tu écoutes des hommes blancs t'expliquer la vie, toi qui es une femme incompétente et névrosée.
Voilà, ils essaient de faire un parallèle avec les séries d'Aaron Sorkin, mais je ne mords pas à l'hameçon parce que je suis plus maligne que ça. Commençons directement... par parler du futur de GG qui est un enseignant, et on va parler donc de Breaking Bad.
Ah, je croyais qu'on n'allait pas commencer à parler de Weeds, donc j'étais un peu inquiet.
Non, à moins que tu aies changé de sexe. Donc, Breaking Bad, qui est dans sa...
5e saison. C'est la première partie de la 5e saison, je comprends pas le principe, mais...
En fait, il y a 2 dernières saisons, sauf qu'ils l'ont coupé en 2 pour dire que la 5e est la dernière, c'est ça?
Ou ça veut dire question, mais c'est pas des questions de droit, c'est-à-dire comme ça, les acteurs, ils peuvent pas renégocier entre la saison 5 et la saison 6, ils peuvent pas renégocier une augmentation de leur salaire.
Ah, c'est possible.
Peut-être.
Parce que moi, j'ai pas vraiment compris pourquoi on disait que cette saison était la dernière, dans la mesure où il va y avoir genre 8 épisodes, et ensuite ça va s'arrêter pendant un an, c'est ça ou...
J'ai pas non plus compris l'intérêt, mais voilà.
Aaron Sorkin pourrait sûrement nous expliquer.
Mais... En même temps, South Park fait à peu près pareil, non? C'est-à-dire qu'ils font des saisons diffusées en 2 parties.
Avec ouais, Greek aussi faisait ça, Family fait ça beaucoup.
Voilà,
mais pourquoi, ouais. Pourquoi cette
fois-ci? Je pense que c'est pour éviter d'avoir des séries à 36 saisons. À la place, South Park en a 18.
En tout cas, ce sont les nouveaux épisodes de voilà. Breaking Bad qui arrivent un an après la saison 4, puisque c'est la saison 5.
L'occasion donc de retrouver cette connasse de Skyler.
Alors, étonnamment, c'est la seule femme autour de cette table qui n'aime pas Skyler.
Oui, c'est parce que moi, j'ai aussi des ovaires et je me rends très bien compte que c'est pas une excuse pour son comportement.
Alors, décris-nous le comportement que tu n'aimes pas chez Skyler, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez elle?
Oh mon Dieu, mon mari est un dealer de drogue. Oh mon Dieu, oh mais comment je vais faire? Oh mon Dieu, il faut que j'emmerde le monde, il faut bien que je montre que je suis une femme et que je peux pas accepter ce genre de comportement, je dois protéger ma famille, vite, envoyons-les chez oncles et tantes, et puis il faut que je dise à Walt à chaque épisode que j'aime pas du tout ce qu'il fait, hein, parce que c'est pas bien de dealer de la drogue, c'est pas bien d'être un méchant, tu tues des gens, non, c'est pas bien Walt.
Ok, mais c'est peut-être la réaction normale
que n'importe qui devrait avoir
au lieu d'être fasciné par...
C'est la saison normale, c'est la réaction normale qu'il aurait dû avoir il y a 4 saisons de ça.
Donc tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas se rendre compte au bout d'une demi-minute alors que son mari il a un cancer, etc., qu'elle est en train de soigner. Elle pouvait pas imaginer que le type allait se transformer en sociopathe, chef baron de la drogue.
Ouais, mais ça fait quand même 2 saisons qu'elle le sait que c'est un dealer de drogue.
Donc, mais ce qui m'épate quand même, c'est que ça c'est plus grave. C'est-à-dire que Skyler, étant un peu plus lente que les autres, devant s'adapter à une situation, effectivement, une fois qu'elle se rend compte quel choix elle a, elle va pas dénoncer.
Pourquoi pas?
Parce que
si elle est si droite moralement.
Mais il n'y a aucun moment qu'elle est droite moralement. Enfin, la clé de.
Alors pourquoi est-ce qu'elle
est droite? La clé des épisodes, c'est qu'elle sait qu'elle-même, elle est compromise moralement. Et ça la dérange, alors que ça ne dérange pas Walt.
Mais qu'elle arrête de péter les couilles de Walt! Et de nous péter les couilles au passage. Moi, j'en ai marre de voir chaque épisode. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme dans Game of Thrones. Dans chaque épisode, tu as 5 minutes consacrées à Daenerys se fait chier dans le désert. Daenerys se fait chier de ci, de là. Et ben là, c'est 10 minutes par épisode. On a Skylar nous fait chier. Skylar nous pète les couilles. Skylar fait sa petite crise.
Donc pour toi, c'est une faiblesse de la série.
Ah,
c'est une faiblesse de l'écriture de Vince Gilligan et des scénaristes. Que pas de réussir.
Non, c'est peut-être pas une faiblesse, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ah, moi j'en ai marre de la voir faire des crises. Si j'avais envie de voir des femmes faire des crises, je regarderais Gossip Girl.
Ouais, moi ça peut-être être le thème de ce podcast, mais je suis en désaccord total avec toi, puisque Skylar, c'est le personnage qui m'intéresse le plus dans la série, et j'aime le traitement qui lui est réservé dans cette saison. Effectivement,
elle était enceinte, elle nous faisait pas autant chier, c'est bien qu'il y a un bug.
En fait, je comprends
elle
pas.
Fait pas elle fait pas chier le spectateur.
Elle fait des crises sans arrêt.
Mais elle fait pas,
elle
des,
fait
crises.
Pas des crises sans arrêt, elle, c'est-à-dire elle qu'elle essaye.
C'est pas gratuit ces réactions. Il y a des éléments. Enfin,
mais il y a quelqu'un
que son mari est un assassin qui fait exploser des hôpitaux.
Il y a quelqu'un qui a eu un propos très très juste sur Twitter qui a dit que ce qu'il attendait dans The Breaking Bad, c'est l'épisode où Walt Jr. Étranglerait Skylar avec ses béquilles. Et moi, c'est exactement ça. J'ai juste envie de voir son fils buter cette femme.
Alors
qui
que moi,
chier,
alors que justement, moi, c'est un truc qui me terrifie et que je trouve réussi dans la série, c'est dans l'épisode 4 là, de la saison 5 où il y a le déjeuner, le petit déjeuner d'anniversaire, où cette espèce de connard là, de fils. Et quand je dis ça, c'est parce que je pense que c'est les scénaristes qui veulent qu'on pense que c'est un connard et je trouve que c'est réussi de ce point de vue-là. On sent que. De façon inconsciente, il subit l'influence de son père. Il a intégré la rancœur que Walt a envers sa femme et qu'il l'accuse de tous ses maux et de sa petite vie, etc. Quand il force sa mère à lui disposer le bacon parce que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça et que c'est son rôle, j'ai trouvé ça terrible, sachant que
c'est un adolescent. C'est pas qu'il prend le parti de son père, c'est juste que c'est un adolescent.
Son père lui a acheté une super bagnole,
oui,
etc.
Oui. Bon, d'ailleurs, j'ai très hâte de voir le skyblock du fils sur le tuning. Non, mais c'est pas du tout un adolescent qui prend le parti de son père, c'est un adolescent qui donc ne veut pas voir les choses changer. C'est terrifiant pour un adolescent de voir tes parents se déchirer. Ton père a eu un cancer l'année précédente, enfin... 10 mois plus tôt, t'as pas envie de voir tes parents se déchirer.
Il en veut pas à son père.
Parce que c'est son père. Son père fait tout pour que tout reste comme avant. C'est ce qu'il fait, ouais.
Son père
qu'il reste
fait pas
là.
Tout pour que tout reste comme avant. Si, moi, ce que je trouve intéressant, justement...
Du point de vue de son fils, Walt, il fait tout pour prétendre
le père,
à une vie familiale normale.
Ce qui est intéressant, c'est justement... Et là, pour le coup, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées dans cette saison sur le personnage de Skyler, notamment la scène d'engueulade avec Walt, que je trouvais un peu didactique. Mais les scènes qui sont intéressantes, c'est justement celles où, en fait, elle regarde juste les interactions entre Walt et son fils.
Ouais.
Et elle voit à quel point... Effectivement, pour un gamin de 17 ans, son père, il achète une grosse bagnole, il joue les caïds, et elle voit que ça fascine son fils, et que son fils, du coup, a aucun recul là-dessus. Mais c'est pas du tout parce que son père refuse de changer, c'est au contraire que son père a complètement changé, et que du coup, il est devenu le père cool dont le fils avait toujours rêvé.
Je dis que Walt essaie de ne rien changer dans son rapport à Skylar. En fait, dans le fait de préserver, dans sa relation à son fils, il change énormément, il devient le papa cool, mais dans sa relation avec Skylar, Walt, c'est celui qui essaie de conserver le rapport homme-femme affectueux qu'ils avaient à l'époque où c'était pas un monstre. Parce que j'aime pas non plus Walt, c'est clair que c'est un être humain immonde et je veux le voir mourir, mais ça reste lui qui essaie de sauver un peu la cellule familiale.
Typiquement, on voit bien, effectivement, on a un ado qui n'a pas du tout de recul sur la relation de ses parents.
D'ailleurs,
et
ça, c'est
forcément
pas réaliste. Les ados ont beaucoup de recul
sur
les choses.
La méchante, c'est forcément sa mère qui quitte son père et qui, à aucun moment, peut imaginer que les torts sont peut-être partagés.
Quand t'es jeune et que tu vois tes parents se déchirer... Évidemment que t'as tendance à blâmer la première personne, la personne dont tu vois qu'elle essaie de s'éloigner.
Mais là en l'occurrence, le fils, c'est quand même un personnage de fiction, donc il est écrit par des scénaristes.
Oui, mais le fils, c'est aussi un attardé.
Mais non, il n'est pas attardé du tout.
Il n'est pas attardé ? Mais pourquoi est-ce qu'il parle comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça ?
Mais parce qu'il a une maladie, enfin il a une dégénérescence cérébrale, mais
ça affecte un peu.
Non, ça affecte pas.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il fait un site internet aussi laid ?
Ben, parce que c'est un personnage de série et que...
Voilà, c'est la même explication que je vais vous donner, c'est parce qu'il fait c'est un personnage de série.
Mais en tout cas, alors, ce qui est bizarre, c'est que...
Je vais être de mauvaise foi, je vous préviens. Je vais être de très mauvaise foi. Tout ce que vous avez à dire, j'ai un argument contre. Tout à fait logique et très bien pensé. Et peut-être un petit peu moqueur vis-à-vis des gens avec des dégénérescences cérébrales.
Ok, j'ai pas compris. En tout cas, ce qui est vraiment bien dans cette saison, s'il faut retenir quelque chose de cette discussion, c'est que le personnage de Skylar est enfin exploité correctement. Mmh. Et que, par contre, du côté de Walt, Jesse et le reste, on est dans la routine habituelle de d'une série qui se positionne pas vraiment bien par rapport à mon sens, hein, par rapport à son héros, et qui finalement trouve pas la bonne façon de dire ce qu'elle a à dire si jamais elle a quelque chose à dire, parce que moi je comprends pas ce qu'on veut nous dire sur Walt. Qu'est-ce qui lui arrive?
Mais ça fait depuis la fin de la... Enfin, c'était quoi, la fin de la saison 2 quand elle est morte, la junkie?
Ouais.
C'est plus là pour moi, que c'est plus vraiment un être humain, c'est plus du tout l'homme qu'il a été. C'est devenu... pour moi, c'est l'homme qui devient de plus en plus puissant à être monstrueux. C'est une escalade dans... C'est une maîtrise du mal, en fait.
Mais c'est vrai, moi je suis assez d'accord, on en parlait tout à l'heure avec ce que tu disais, Gégé, sur le fait que depuis la fin de la saison 2, effectivement, jusque-là, on avait une évolution du personnage qui aboutissait un peu au fait qu'il laissait une junkie mourir devant lui parce que ça arrangeait ses affaires. Mais c'est vrai que depuis, le personnage de Walt, il fait un petit peu du surplace. Enfin, on a plus grand-chose, j'ai l'impression, à apprendre sur lui. On sait plus ou moins comment ça va finir, c'est-à-dire très mal pour le personnage. Ouais. Et il n'y a pas vraiment... moi, je trouve que la série, elle stagne un petit peu, notamment l'année dernière, dans ce personnage qui, du coup, il doit devenir super méchant, mais en même temps, il ne peut pas devenir super méchant tout de suite parce qu'il faut quand même qu'il puisse y avoir du suspense et des rebondissements. Dans sa relation avec Jesse, ça stagne aussi beaucoup, puisque finalement, on alterne les trois épisodes où ils sont fâchés, au moment où ils se réconcilient, puis ils sont refâchés, et puis Jesse essaye de s'en sortir, mais Walt, finalement, finit par le réenfoncer. Bon, ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça, et...
Ça fait pas 2 ans et demi, ça fait 6 mois que c'est comme ça dans la série.
Oui, mais dans deux saisons. Moi, je juge en tant que spectateur, donc ça fait 2 saisons que je trouve que la série stagne un peu. Et c'est pour ça que je suis assez content que là, ce soit la dernière saison, parce que je me dis qu'ils peuvent enfin aller là où ils voulaient aller depuis le début. Et d'ailleurs, cette année, il n'y a pas de méchant pour l'instant qui mais a moi, été introduit, c'est Walt le méchant.
Oui, je trouve que pour moi, c'est pour ça que je trouve que la série a une progression parfaite de ce niveau-là, parce qu'il se passe... D'un point de vue temporel, si on tient pas compte du flash-forward du premier épisode de la saison 5, il se passe une année. Et je trouve que sur une année, c'est une évolution graduelle, mais logique. Bon, peut-être que Jesse se remet un petit peu trop vite de la mort de la junkie, mais en même temps, je suis sûre que si je me revoyais tous les épisodes à la suite, je trouverais que c'est très très crédible comme évolution, que c'est une évolution qui est progressive. Et c'est surtout, moi, c'est surtout du point de vue de, enfin, du côté de Jesse que j'adore cette évolution. C'est-à-dire que ça devient, ouais, ça a été dit sur le forum, le Walt des débuts. C'est-à-dire que ça devient un personnage qui a beaucoup de réflexions, qui est très astucieux, qui trouve une manière de s'en sortir à chaque fois, avec l'aimant, avec le train. Et c'est quelque chose que moi, j'aime parce que. Si Jesse, au début, on nous l'a présenté comme un gros glandeur, ça a toujours été ce personnage qui avait une capacité pour une curiosité, une espèce... Il avait comme un esprit très vif, hein. Malgré le fait que c'était un gros drogué, voilà. C'était le type malin, quoi. Et du coup, j'aime, à chaque scène de Jesse, quasiment, je suis fascinée, parce que j'adore les scènes où on le voit avec ses anciens amis qui lui demandent, ouais, tu voudrais pas, t'as pas des plans à nous proposer pour qu'on deal, etc. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que Jesse... Il a un regard un peu très très froid sur les choses, très très désabusé. Et pour moi, c'est ça, c'est le plus gros intérêt de la série, c'est pas Walt, c'est Jesse.
Mais moi, Jesse, je trouve que c'est un personnage qui est sympathique, mais en termes de travail des scénaristes sur son personnage, je trouve que là, cette année, ils ont l'air d'essayer quelque chose d'un peu différent, mais là, ça fait 2-3 ans qu'ils font pas mal de surplace. Et que en fait, Breaking Bad, je trouve que c'est une série, on sent qu'effectivement ils savent où ils veulent aller, et du coup c'est pour ça que je me dis la dernière saison je suis très confiant, parce que depuis le début clairement ils savent exactement où ils veulent emmener au moins leurs 2 personnages principaux, et ils savent comment ils veulent finir leur série. Mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas du tout prévu d'avoir le succès de la série et le fait d'avoir 2-3 saisons à remplir entre leur fin et leur début. Et du coup, ils ont été obligés de faire un petit peu du remplissage, qui était souvent bien fait, mais avec des intrigues qui n'étaient pas forcément clés, et surtout de faire des allers-retours permanents à leurs personnages, parce que dès que Walt devenait un petit peu trop, justement, le méchant, bah, ça ne pouvait plus fonctionner sur 3-4 ans, donc il fallait le rendre sympathique à nouveau. Et Jesse, dès qu'il commençait un peu trop à s'en sortir, il fallait qu'il y ait sa copine qui meurt d'une overdose, ou son autre copine qui lui annonce qu'il y a un gamin qui est mort à cause de lui, ou enfin pour qu'il
rechute. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est la série, les 4 premières saisons, C'est aussi, c'est peut-être pour ça que je vois une utilité dans le fait que la saison 5 soit séparée en deux parties. C'est parce que les quatre premières saisons représentaient une année, et la cinquième saison représentera également une année. Et du coup, si on avait eu tout à la suite une année d'évolution, enfin, je trouve bien que ce soit, vu que le dernier, bon, j'imagine qu'elle fera une année, vu que la première scène de la cinquième saison, c'est une année plus tard. Donc je pense que ça va nous faire 4 ans, 4 saisons pour une année, et donc une saison pour une année, et du coup, je trouve que c'est très bien qu'on ait pris du temps pour bien poser les bases des personnages, montrer de manière très très très, très détaillée comment ils vont, ils viennent, comment, parce que quand t'évolues, tu évolues pas du jour au lendemain, tu changes pas du jour au lendemain totalement ce que tu es. Il y a des moments où t'hésites, où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de devenir, est-ce que c'était pas mieux comme j'étais avant, réfléchis un peu à ce que tu fais, et où tu cèdes quand même à la facilité, ou au contraire, dans le cas de Jessie, où tu t'anoblis un peu quand même.
Mais je dis même pas que c'est pas réaliste, tu vois, l'évolution des personnages en yo-yo. Moi, ce qui me gêne, c'est que effectivement, tu me dis que c'est censé être une année dans la série, mais pour nous spectateurs, c'était 4 ans et c'était 4 saisons de 13, enfin la première était plus courte, mais 4 saisons de 13 épisodes. Donc pour moi, effectivement, ce genre d'évolution en yo-yo, tu peux le faire une ou deux fois, mais quand c'est enfin moi, il y a vraiment des fois dans la série où j'ai eu l'impression que c'était la 10e fois que je voyais tel personnage changer d'avis, Jessie retomber dans la drogue alors qu'il était clean depuis un épisode et demi. Et je dis pas que...
Bon, disons que 52, disons que ça fait 4 saisons, ça fait disons 52 épisodes. Ça fait disons 52 semaines, on va dire.
Bah 52 épisodes, 52
semaines, ça fait 52 semaines, ça fait une année. Et moi, je trouve ça totalement crédible quand tu essaies d'arrêter de la drogue. Tu restes une semaine à être bien dans tes principes et après mais tu retombes.
Après, il y a une différence entre la crédibilité et le fait que ce soit intéressant et divertissant pour le spectateur. Et c'est vrai que. Alors, ce que réussit Breaking Bad de façon assez incroyable, c'est leur côté mission impossible. C'est-à-dire quand il y a la mission de la semaine, le train, l'ordinateur, etc. Effectivement, et on passe devant un épisode de Breaking Bad pendant les 45 minutes. C'est très rare de s'ennuyer, la tension est toujours assez bien amenée, enfin même souvent avec maestria. Mais alors, le problème que j'ai avec Breaking Bad, c'est pas quand je regarde la série, c'est quand je repense à la série, où effectivement, à la fin, on se dit, effectivement, j'ai passé un très très bon moment, et j'ai passé une saison relativement chouette, mais au final, il s'est toujours passé d'un point de vue des choses qui sont censées être la base de la série, c'est-à-dire l'évolution des deux personnages principaux, quelque chose qui est loin d'être aussi exceptionnel.
Mais parce que tu vas pas changer du jour au lendemain, tu vas pas. Pour moi, c'est normal du point de vue, simplement du point de vue temporel de la série.
Tu peux ne pas changer du jour au lendemain. Mais le problème, c'est que la série, c'est pas du tout un changement linéaire qu'elle a présenté. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est que leur relation évolue plus doucement. Mais la série, je pense qu'ils ont très vite voulu justement un peu installer ce côté Walt en grand mafieux, en grand big boss, en baron de la drogue.
Ils ont pris leur temps.
Ils ont pris leur temps. C'était dès la deuxième saison, ils ont commencé via des flash forward.
Dans la deuxième saison, son petit chapeau, c'était juste une façade. Ça, c'est important pour moi. Dans la deuxième saison, c'était vraiment une façade qui se donnait. C'était le chapeau qu'il mettait, entre guillemets, pour se cacher. C'est comme Batman devient pas Batman parce qu'il met un masque. Enfin, Batman au début, disons, je prends pas Batman, mais je prends, disons, Peter Parker. Il a ses super pouvoirs, mais il devient Spider-Man avec son humour légendaire et tout ça qu'à partir du moment où il a son masque, parce que c'est ce masque qui le libère. Et donc, c'est un peu le chapeau de Walt, son physique de gangster, qui va lui permettre de devenir Heisenberg.
Oui, mais
et c'est à partir de là qu'il arrive
la série, dès le deuxième épisode de la série, il y a Walt qui est obligé d'étrangler un mec parce que il s'est déjà retrouvé dans une situation où il est obligé de tuer quelqu'un pour s'en sortir. C'est quelque chose qui était sur le moment qui était très bien, mais clairement la série elle a fait le choix de la transformation de Walt, ils ont fait le choix de la montrer, de beaucoup accélérer le début pour rendre la série intéressante, parce qu'effectivement voir un prof de chimie hésiter et se dire peut-être que je veux devenir un peu trafiquant de drogue, mais en fait non, c'est pas bien, ça nous aurait pas passionné. Mais à partir de là, ils ont commencé à pousser très loin le personnage, et ensuite ils ont fait
des tours.
Parce qu'il était condamné et il pensait qu'il avait plus que X temps à vivre.
Et alors ?
Ben, et il voulait se faire un maximum de thunes pour sa famille, donc il était là. Bon, ben, soit tu butes, soit ta famille, ta femme, elle va se retrouver avec un enfant, elle aura pas d'argent. ton fils pourra jamais aller à l'université, il est malade en plus, donc qui est-ce qui va s'occuper de lui avec les assurances et tout ça, comment est-ce que ta femme va s'en sortir quand tu seras mort et que ton fils est un handicapé qui fait des sites pourris, il peut même pas devenir informaticien, quel avenir a-t-il?
Un blanc pour...
pour montrer notre pour désaccord sur Breaking Bad.
Ouais, non, moi, je
y a suis... pas, c'est pas... Mais en plus, c'est, on dit pas que c'est une mauvaise série, on dit pas que c'est une mauvaise saison, mais qu'effectivement, c'est une série qui a quand même de grosses faiblesses de développement des personnages. Et c'est d'autant plus gênant. Et là, effectivement, la série, elle est pour rien, mais que c'est comme... la discussion qui a été initiée sur le site par l'article de Drum sur tout ce qui se dit autour d'une série. Comme toi, tu as été super énervé par Girls et tout ce qui a été dit autour de Girls, qui était la série qui...
Du générationnel,
etc. Effectivement, là, ça devient, au vu de la quatrième et du début de la cinquième saison, ça devient difficile d'entendre que Breaking Bad est la meilleure série du monde et qu'il y a eu le traitement. Non, mais d'accord. Mais qu'il y a eu. Et pourquoi c'est la meilleure série du monde? Parce que c'est la série qui fait évoluer le mieux avec une maîtrise extraordinaire ces deux personnages principaux.
J'ai jamais entendu dire ça de Breaking Bad. Déjà, j'ai entendu très peu de personnes dire que c'était la meilleure série du monde.
Bah, soit c'est Mad Men, soit c'est Breaking Bad.
Et après, effectivement, de toute façon, ce genre de discussion est relativement stérile, elle mènera à rien.
Je vous prédis une chose, c'est que dans une année, on enregistrera un podcast, si personne n'est mort entre-temps, on enregistrera un podcast et qu'on s'énervera par rapport au fait que tout le monde dit qu'en ce moment, la meilleure série du monde, enfin, tout le monde dira que la meilleure série du monde, c'est Louis. Simplement parce que les gens auront eu le temps. Pour moi, c'est normal que maintenant Breaking Bad soit acclamé parce que les gens ont eu le temps d'assimiler. Les gens ont eu le temps, par le bouche à oreille, de se mettre à Breaking Bad. Et c'est rien de plus que ça. Bah, c'est pas une série à buzz, Breaking Bad. La saison 1, il y avait peu de gens qui en parlaient quand même.
C'est typiquement le genre de série qui plaît beaucoup. C'est-à-dire, c'est dans la lignée des Sopranos, dans la lignée de The Shield. C'est la série d'anti-héros blancs.
Mais les gens commencent vraiment à en parler qu'à la saison 4.
Non, mais ça c'est effectivement un problème.
Mais effectivement, c'est quelque chose de complètement périphérique la série.
C'est même pas qu'elle est accueillie, c'est qu'elle n'est pas accueillie, justement.
Considérée.
Voilà, elle est considérée. Au bout de 4 ans, les gens se sont enfin réveillés, se sont enfin attardés sur le cas Breaking Bad.
Non, Breaking Bad, ça fait quand même depuis la fin de la saison
2
que...
la
fin de la saison 3.
Attends, si tu regardes les nominations aux Emmy, je crois qu'ils ont chacun...
Ah oui, parce que c'est tout ce que les nominations aux Emmy, c'est un paramètre excellent.
Bah oui, c'est un paramètre qui te montre effectivement si la série a...
Un niveau de reconnaissance générale.
Non, parce qu'à ce moment-là, Aaron Paul, il aurait ses nominations en acteur principal.
Non, mais après, il aurait une nomination et aucun des deux acteurs ne gagnerait l'Emmy. Donc, d'un point de vue stratégique, pour les gens qui vendent la série, c'est quand même mieux d'avoir deux Emmy pour les deux acteurs principaux que juste deux nominations dans la catégorie acteur meilleur acteur, je pense. Oui. Mais effectivement, on s'éloigne.
C'est la chaleur.
Mais c'est difficile, effectivement. C'est compliqué de regarder une série en s'affranchissant de tout ce qu'on entend et de tout ce qui est dit sur une série.
Je suis sincèrement très agacée quand j'entends des gens me dire que Breaking Bad est la meilleure série en ce moment à l'antenne, parce que je considère que la meilleure série en ce moment à l'antenne, c'est Louis.
Et après, il faudrait quand même qu'on arrive au fait que même si on fait nos petits classements et tout ça, on est tous conscients que ça veut strictement rien dire.
Voilà, strictement rien dire. La meilleure
surtout pour une série en plus.
Voilà, c'est une série qui est ambitieuse et qui est à la hauteur de ses ambitions pour moi, Breaking Bad. C'est ça. Je trouve que, en dehors, indépendamment de la manière dont les gens la présentent, les critiquent la série, indépendamment de son accueil, je trouve que la série se vend et elle remplit les attentes qu'elle crée. Je trouve que c'est une série qui crée pas de fausses attentes, qui ne ment pas sur le produit qu'on va avoir. C'est une série qui reste très très honnête et pour moi, ça, je trouve que c'est respectable. Et du coup, c'est pour ça que je suis difficilement déçue par Breaking Bad, parce qu'elle me donne des choses honnêtes. Contrairement aux hommes.
Voilà.
Oui, passons à autre chose.
Donc on verra de toute façon voilà, comment va se conclure cet arc de 8 épisodes, si ça va...
C'est un peu comme le podcast, on ne sait pas du tout où ça va se terminer.
On ne sait pas du tout où ça va aller. Apparemment, on avait un indice, puisque la première scène d'introduction, je l'ai appris il y a quelques heures, et se situait donc dans le futur.
Moi, je l'ai vu sur Internet.
Moi, je n'avais pas percuté. Non.
C'est-à-dire que moi, j'ai vu Walt avec des cheveux, je me suis dit, c'est sans doute un flashback, ou alors c'est effectivement...
Mais c'était marqué qu'il avait 52 ? Enfin,
mais
moi,
je ne connais pas son âge.
Quoi. Alors effectivement, et là où il y a une vraie faiblesse, là il y a une vraie faiblesse. Ok, on commence sur ses 50 ans, mais là où il y a une vraie faiblesse, c'est que moi je pensais pas du tout qu'il n'avait pu s'écouler qu'une seule année. Quand ça a été l'épisode de son anniversaire et où on entend ah là là, ça fait un an qu'on m'a diagnostiqué le cancer.
J'étais là. Absolument pas.
Attends. Non, ça fait pas un an. Il y a pas l'avion qui a explosé. Il y a pas Gus qui a explosé.
Bon, j'avoue que l'explosion de l'avion, pour moi, c'est le gros point noir de la série. Cet avion qui explose, pour moi, c'est le truc. Il y a un truc dont on se souvient. Il y a toujours un élément à chier dans une série dont on se souvient. Dans Angel, c'était Connor. Et là, pour Breaking Bad, ce sera l'explosion de l'avion.
Je pensais que c'était Skyler, l'élément à chier de Breaking Bad.
Non, il faut faire une différence entre l'élément qui m'agace chaque semaine et l'élément qui est mauvais, parce que même si elle m'agace.
Et tu penses que la série, que la série serait mieux ou moins bien si Skyler était pas là?
Je pense pas qu'elle serait. Je pense qu'elle me ferait plus plaisir parce que Skyler m'énerve, mais je pense pas que ça la rendrait meilleure pour autant.
Mais parce que, enfin, là encore, pour le coup.
Parce que Skyler, elle a sa présence. Bah... C'est clair qu'elle a sa présence, et la manière dont ils la font, c'est pas totalement hors de propos. Mais ça reste. Moi, ça m'énerve. Chaque semaine, je sais que ça m'énerve et que j'ai envie de la voir crever. Mais je sais pas. C'est pas parce qu'on la tuerait que la série deviendrait meilleure. C'est pas, ça rend pas la série mauvaise.
Mais donc, ce qui est quand même intéressant dans ce que tu dis, je pense pas que l'intention des scénaristes soit de décrire un personnage que les spectateurs aient envie de tuer.
Je pense
que Skyler doit pas être. Et pas ça. Et donc, dans ces cas-là, la série, elle est pas à la hauteur de ses ambitions.
Pourquoi ?
Puisque elle pose un personnage qui doit être le pendant...
Non, parce que c'est un personnage qui, du coup, amène à une réflexion. Moi, pourquoi est-ce que je déteste Skylar ? Parce qu'elle fait chier mon... Elle se met dans...
Elle fait chier ton homme, quoi.
Non, parce que mon homme, c'est Jesse. Mon homme, c'est Jesse, c'est pas
Walt. Ouais, mais en faisant chier Walt, elle met en péril Jesse,
c'est ça ? Non, c'est pas, j'en ai marre de voir des femmes faire des crises, c'est tout. C'est vraiment que j'ai pas envie...
Mais elle fait pas de crise, justement.
Si elle fait ses crises, elle boude.
Elle boude pas, elle intériorise ses frustrations.
Ah mon dieu,
que,
mon mari, c'est de la drogue, alors je vais bouder et fumer.
Moi je trouve que pour le coup.
Et je vais plonger dans la. Je vais marcher dans la fontaine, dans la piscine. Le jour de son anniversaire, parce que je suis tellement une rebelle, je vais marcher, je vais rester sous l'eau.
Mais justement, quand elle va dans la piscine, moi je l'ai interprétée comme vraiment l'expression de son impuissance la plus totale et tout ce qu'elle pouvait faire, en gros. C'était gâcher à peu près un quart d'heure de la célébration décidée par Walt.
Non, parce qu'elle voulait foutre, la merde pour que ça justifie le fait qu'elle demande à sa sœur de prendre les gamins chez eux.
Je comprends pas comment tu peux lui reprocher ça, en fait.
Ah, mais je lui reproche pas ça. Il faut bien faire la différence.
Quel problème du personnage, si...
C'est qu'elle m'énerve. Ah, je dis pas que le personnage a un problème, je dis que moi j'ai un problème avec le personnage. Ce qui est une grosse différence.
Oui, mais c'est quand même bizarre. Enfin, et t'es pas la seule, hein, y a énormément de gens. J'ai lu pas mal de trucs intéressants sur le fait qu'effectivement, il y a plein de pages Facebook, par exemple, qui disent il faut que Skyler crève, et il y en a pas qui disent il faut que Walt crève, alors que c'est quand même lui l'anti-héros de la série.
Bon, je vais t'expliquer. Étonnamment... Moi, de mon point de vue, d'un point de vue scénaristique, Walt devrait mourir. Du point de vue de spectatrice, j'ai pas envie de voir Skylar mourir dans la série, j'ai envie de tuer Skylar. J'ai envie de la prendre, de l'attacher à une chaise et de la frapper de manière répétitive, d'abord avec ma main, ensuite avec un couteau, ensuite avec des cure-dents.
C'est pour ça que les femmes, elles s'en sortiront jamais. Mais oui, parce qu'il n'y a aucune solidarité féminine.
Pas quand elles sont chiantes, parce que là, on dirait qu'elles réagissent en PMS permanent.
Moi, ce que j'aime bien dans son personnage, c'est que pour le coup, c'est pas le personnage cliché de la femme qui passerait son temps à hurler, à piquer des crises, et c'est un personnage qui intériorise beaucoup. Et je pense que si le personnage est si détesté, c'est aussi parce que justement, c'est un personnage qui d'habitude n'exprime pas forcément ce qu'il ressent, que ses frustrations, ça passe plutôt elle passe de manière subtile, et que c'est pas forcément justifié de manière très évidente à l'écran. Et du coup, les gens en ont déduit qu'elle était froide et qu'elle était dominatrice avec ce pauvre Walt qui visiblement a jamais, s'en est jamais plaint jusqu'au jour où il a eu un cancer.
Désolé pour les auditeurs, il va y avoir du bruit, mais on ouvre la fenêtre parce qu'on a très chaud.
Il fait tellement chaud parce qu'on a... On s'est dit que le meilleur jour pour enregistrer le podcast, c'est le jour où il allait faire le plus chaud en France.
Voilà.
Paris, c'est la
mais
France.
Mais c'est ma faute, j'ai décidé de venir en France, donc forcément la température est en
France. Wow.
Ah mais c'est assez étrange ce rapport que t'as au personnage.
Un rapport aussi... Enfin...
Mais j'ai un rapport aux séries TV très 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 émotif. Ouais. Alors, c'est toujours...
Mais c'est je comprendrais que ce soit un personnage qui agace parce qu'on se dit, bon, le problème c'est que, moi je suis le premier à le reconnaître, c'est un personnage dont les scénaristes savent pas toujours quoi faire et du coup elle a souvent des petites intrigues qui sont là parce qu'il faut bien que Anna Gunn ait un peu de temps à l'écran, donc elle retourne travailler dans son entreprise où effectivement elle a des intrigues qui sont inutiles, mais cette année son intrigue est complètement intégrée à celle de la série, donc je vois pas
c'est une fille qui m'a tellement énervée. C'est ça, je vais pas utiliser le terme personnage, c'est quelqu'un qui m'a tellement énervé, Skylar, qui m'a tellement par le passé été inutile, que maintenant qu'elle se bouge enfin le cul, qu'elle s'intéresse enfin à sa famille, au lieu de se taper son ex-flirt, maintenant qu'elle s'intéresse enfin à sa famille, eh ben, bien fait pour ta gueule, meuf, ouvre les yeux.
Mais attends, est-ce que quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait, mérite d'être dans cette situation,
c'est-à-dire
coincé par une espèce de sociopathe.
Il y a des gens qui se retrouvent dans de telles situations de merde qu'elle.
Tu peux dire qu'elle ne s'intéresse pas à sa famille alors que depuis le début. Ça aussi, c'est un échec de la série, parce que pour moi, la série, depuis 4 ans, elle dit il y a Skyler qui s'occupe justement de sa famille de façon à peu près intelligente, et il y a Walt qui ne va pas assister à la naissance de son gamin parce qu'il est occupé à vendre de la drogue, qui met sa famille en danger à peu près tous les deux épisodes parce qu'il se fâche avec des barons de la drogue et que sa famille est obligée de déménager.
Sa famille n'est pas tant que ça en danger.
Mais si.
À partir du moment où tu mets le pied tu deviens un dealer de drogue et que tu grimpes les échelons...
Et où t'assassines des barons de la drogue mexicains à la frontière, tu mets ta famille en danger. Et il le sait. Et c'est l'un des ressorts du suspense de la série.
Et alors, moi, par contre, je trouvais ça un peu réussi. Il y a un peu d'alcool dans les...
Ah, je savais pas, d'accord.
Dans les cannelés. Il y a du rhum.
D'accord, il me semblait.
Je crois.
Oui, il y a du rhum.
Ouais. Mais effectivement, alors moi je trouvais que c'était plutôt réussi l'opposition entre Skylar qui est celle qui en gros
fait des bons
comprend ce que ça veut dire s'occuper de sa famille, et Walt qui
mais
utilise
elle est pas du tout diplomate
et
elle a aucune diplomatie,
mais Walt de toute façon lui n'a jamais pensé une seule seconde à sa famille, et quand il parle de sa famille et de l'argent et que sa famille serait malheureuse sans lui, c'est le côté JR dans Dallas qui pour justifier tout ce qu'il faisait, c'était là. Ah, mais j'ai fait ça pour la famille. Oui, j'ai fait ça pour mes enfants.
J'ai pas 60 ans, j'ai pas vu Dallas.
T'as pas vu Dallas, mais c'est pour te dire que c'est vraiment l'argument des gros égocentriques qui, en gros, s'intéressent pas à leur famille, s'intéressent juste
à leur succession, et à leur plaisir.
Et à la transmission de leur gloire. Mais Walt, quand même, si c'était posé, si le personnage existait vraiment comme en tant qu'être humain et qu'il pouvait avoir des réflexions, il pouvait se dire quand même que peut-être que ma famille, si je m'y intéressais vraiment, était plus à l'abri et risquait de vivre mieux.
Mais ils pensaient jamais que ça prendrait de telles proportions.
Ce qui est étrange, c'est que
homme qui devient fou par le pouvoir, et on le voit devenir de plus en plus mauvais parce que le pouvoir l'a totalement transformé.
Mais en quel point les réactions de Skylar par rapport à cette transition pour laquelle elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien, c'est quand même pas de sa faute si lui est devenu comme ça. Et c'est ça qui est assez étrange, puisque même si les scénaristes, je trouve,
moi j'aime pas les personnages qui passent leur temps à se plaindre, ce qui est très paradoxal vu que je passe moi-même mon temps à me plaindre, mais ça m'énerve de voir son personnage qui fait que whiner 24h/24.
Ah, bon, on voit pas du tout le même personnage, puisque moi Skylar, j'ai l'impression qu'elle se plaint pas.
Elle se plaint jamais, elle intériorise tout. Enfin, je veux dire, même dans cet épisode, moi, ce qui m'a déplu dans l'épisode où elle se dispute avec Walt dans une scène que beaucoup de gens aimaient, c'est que justement, le personnage exprime enfin ses frustrations à voix haute, et j'ai trouvé que c'était un petit peu artificiel. J'avais un peu trop l'impression qu'ils étaient en train de dénoncer à voix haute des choses qu'on aurait dû comprendre.
Mais tu le vois très bien dans son attitude, qu'elle est toute pleine d'énervement, et moi ça m'énerve de voir.
Depuis 3 épisodes, effectivement, parce que là elle est dépressive cette année, qu'elle a découvert que son mari est un tueur en série,
peur de son mari,
qu'elle était
coincée,
Mais dans les saisons précédentes, pour moi, au contraire, j'ai jamais eu ce ressenti du personnage, et j'ai l'impression que Et je trouvais que le personnage, justement, allait plutôt à contre-courant de ces clichés.
Mais The Shield, qui est vraiment une super série.
Bah, la femme de Vic, c'est vraiment ça, pour le
coup. Corinne, qui est la femme de Vic, effectivement, est quand même un personnage qui, est au mieux, est délaissé. Ouais.
Et n'a rien à faire.
Il n'a rien à faire. Alors que Skylar, j'ai l'impression que les scénaristes de Breaking Bad s'en sont emparés en se disant, on va quand même pas, justement, la laisser tomber parce qu'on n'y arrive pas, mais s'acharner à faire d'elle un personnage important et indispensable. Et Anna Gunn, pour le coup, est vraiment, se réveille une actrice. Moi, je la trouve incroyable.
Oui, c'est incroyable. Une bonne actrice. Je dis pas le contraire. Hein. Je dis juste que ça me pète les couilles.
Je crois qu'on ne tombera pas d'accord. On peut parler d'un
autre
personnage.
Je dis pas que c'est mauvais scénaristiquement. Hein. Je dis juste que ça m'agace. Parce que peut-être que ça fait écho à la partie de moi qui aurait envie de voir. Boys will be bad, quoi. Que j'ai envie que les méchants soient vraiment méchants, qu'on les laisse. Peut-être que je la trouve un peu trouble faite.
Mais c'est aussi un peu la limite pour moi de la série, c'est qu'il puisse y avoir des interprétations, si pour moi, à côté de ce que les scénaristes veulent faire. Parce que clairement, le message de la série, pour moi, c'est pas le pauvre Walt qui veut devenir méchant et sa femme qui lui casse les couilles et qui l'empêche. Les scénaristes essayent de dire
pour
tout le contraire.
En fait,
et il y a beaucoup de gens qui, visiblement, ont qu'une envie, c'est de voir Walt devenir un gros dealer et un gros baron de la drogue et se débarrasser de sa femme qui vraiment
non moi je veux voir Walt mourir.
Ok, mais est-ce que tu veux voir, est-ce que ça te plairait si Walt pas mourait ou en tout cas s'en sortait mal par l'action de Skylar? Est-ce que ça te gênerait que ce soit
si
elle
Skylar
qui soit la cause
plus, si Skylar devenait un petit peu plus charismatique, oui, ça pourrait me plaire. Si elle faisait autre chose qu'arrêter de se plaindre et d'être autant d'être autant en position de victime, parce que pour moi c'est ça, c'est la petite victime qui se plaint et qui boude.
Ah mais elle était enceinte, elle a accouché, elle est enceinte. Quand est-ce qu'on apprend qu'elle est enceinte?
Elle est enceinte dans la première saison, dans la deuxième. Elle accouche sans Walt, mais dans les premières saisons, elle est rien d'une victime. Dans la troisième, elle quitte Walt. Je crois que les scénaristes savaient plus trop quoi faire d'elle à ce moment-là, justement. Mais pour moi, c'est pas du tout ce que tu décris. Pour moi, les seuls épisodes où tu peux parler d'elle comme du victime, c'est les quatre derniers épisodes où elle est dépressive parce qu'elle se rend compte qu'elle est coincée. Mais tu peux pas juger le personnage sur ces quatre derniers épisodes où, de toute façon, c'est clairement voulu de montrer qu'elle est. Qu'elle sait pas comment s'en sortir.
Pourquoi est-ce qu'elle part pas simplement?
Mais parce que.
Pourquoi?
Elle peut pas.
Elle lui a déjà piqué son argent une fois à Walt. Pourquoi est-ce qu'elle recommence pas?
Mais parce que elle est coincée, parce qu'elle veut se faire arrêter par les flics, puisqu'elle a blanchi l'argent de Walt.
Pourquoi est-ce qu'elle se ferait arrêter si simplement elle prend de l'argent et qu'elle se bat avec ses enfants?
Mais je pense qu'elle est pas aussi débile que Walt et qu'elle s'imagine pas que tu peux voler un demi-million à un baron de la drogue et pas être poursuivi.
Et partir avec une gamine de 3 mois et un adolescent de 17 ans.
Mais son adolescent, elle le laisse derrière. De toute manière, il est relou.
C'est pour ça que...
Tous les parents détestent leurs enfants quand ils sont adolescents, de toute façon. Alors qu'elle assouvisse le fantasme de tous les parents et qu'elle se barre sans lui en vacances.
Mais c'est parce qu'elle est un peu plus futée que ça. Et elle sait que tout ce qui se joue, même si son gosse la déteste, tout ce qui va se jouer maintenant se répercutera dans 15 ans dans son rapport avec son gamin.
Ouais, mais t'as vu la gueule de Walt Jr. Jamais il aura d'enfant. Faut qu'elle arrête.
Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Non, là je commence à raconter n'importe quoi parce
qu'il est chaud, il s'en est marre.
Voilà, il faut de l'eau et ça fait 40 minutes qu'on parle de Breaking Bad.
Je crois qu'il faut qu'on passe à l'autre série de anti-héros qui passe le dimanche.
Parlons un peu d'une femme qui aime beaucoup
d'une série qui est dans sa dernière saison. Qui nous fait un formidable parallèle avec Breaking Bad.
Qui aurait dû être dans sa dernière saison depuis au moins 5 saisons.
Alors, je ne suis pas d'accord.
Voilà.
Vous avez mauvais goût. Les 40 dernières minutes l'ont prouvé. Alors donc. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, je suis une série qui parle d'une ancienne femme vivant dans la banlieue, qui vendait de la drogue, pour commencer de la marijuana, ensuite de la cocaïne, ensuite du crack, ensuite elle a épousé un baron de la drogue mexicain.
Elle a vendu du crack.
Je sais pas. C'est tous les noms de drogue que je connais. Ça va, c'était ça ou le chloroforme, vous allez pas me chier.
On parle de Weeds, qui effectivement, elle a vendu toutes les drogues possibles et imaginables ou contribué à les vendre. Et là, ironie du sort, qui moi m'amuse beaucoup, elle décide de trouver enfin un boulot honnête et elle va travailler dans une boîte dans l'industrie pharmaceutique où elle vend des drogues qui sont encore pires, mais qui sont légales. Et déjà, rien que pour ça, ça justifie d'être arrivé jusqu'à la saison 8 pour moi.
Je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup cette orientation. Cette dernière saison, je la trouve merveilleuse.
Ah.
Oui.
Une série sur laquelle on va tous être d'accord.
Ouais. D'accord, donc la série suivante, on passe à Gossip
Girl. Mais c'est pour ça que comme Nancy est une femme et, voilà, que, oui. Et que de temps en temps elle se plaint, elle devrait mourir et être torturée.
Ah, puis surtout,
non, parce qu'elle est super menace.
Ça, c'est pas bien.
Non,
parce
alors
que quand
ça...
t'es une femme, tu dois pas utiliser ta sexualité,
oh,
jamais.
Vous êtes de mauvaise foi. Non, ce qui m'énerve, c'est que le seul moyen pour Nancy de s'en sortir dans cette série, ça a toujours été son cul. Et que je trouve qu'une femme qui, depuis 8 ans, évolue dans le monde de la drogue... Même plus, vu qu'elle a passé une année en prison, disons que ça fait quoi, 9 ans qu'elle évolue dans le monde de la drogue, je trouve qu'à force, au bout de 9 ans, elle aurait dû commencer à comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent. Elle aurait dû... En plus, elle avait l'air quand même futée comme femme. Ça avait l'air
est-ce
à la base
d'être
femme.
Est-ce que justement, après 8 ans, on se rend pas compte qu'elle est plus futée que ce qu'on croyait, puisqu'elle n'utilise pas d'armes, elle n'utilise pas de... Elle n'a pas une équipe de mecs un peu chelous, hyper brutaux, qui vont obtenir ce qu'ils veulent par la
Donc,
violence
mieux,
et la menace. Et elle décide de faire les choses un peu
elle
plus gentiment.
Elle décide de faire la pute.
Et en même temps, je trouve ça moins grave de faire la pute que de tuer des gens. Enfin, je sais pas.
Personnellement, je trouve plus grave de coucher avec un homme absolument dégueulasse et répugnant
que de tuer quelqu'un.
Que de tuer ce même homme.
Okay.
Donc on sait très bien que je suis pas l'héroïne faite pour un torture porn.
Je pense qu'un jour on va assister au procès d'Iris et que ce podcast sera utilisé
en
large en pièce à conviction.
Non mais c'est pour vous montrer l'esprit de cette personne.
Moi ce que j'aime bien dans Wit pour le coup, c'est que c'est une série qui dit des choses intéressantes sur la place de la femme à la fois au sein de la famille, au sein de la société, et qui en même temps c'est jamais revendiqué féministe ou quoi que ce soit, et qui je pense les scénaristes ont toujours, notamment la créatrice de la série, a toujours fait faire un peu ce qu'elle voulait à Nancy sans se dire ça donne une bonne image, ça donne une mauvaise image, etc. Donc la série a pas mal de liberté. Moi, ça m'a pas du tout choqué, parce que là tu fais référence au fait qu'elle couche avec un médecin dans le dernier épisode.
Non, je fais référence
à ses clients.
Au fait qu'elle a toujours passé son temps à baiser avec des gens, pas qu'avec des hommes, à baiser avec des gens pour obtenir ce qu'elle
voulait. Mais parce qu'elle a envie.
La meuf qu'elle se tape en prison, elle en a pas vraiment envie. On voit bien à quel point elles sont débarrasses. Et pour moi, c'est le... Non, je vais pas ressentir, en plus, je le pense pas vraiment. Mais c'est peut-être un petit peu Jenji Cohan qui est grosse et laide et qui, du coup, se crée une héroïne bien badass,
c'est
bien
un
sexy.
Peu qui
Jenji Cohan, la créatrice de la série.
Ah, oui.
Qui est grosse et laide. Et qui du coup se crée une série avec... Tu sais, c'est un méga Marisou en fait, Wit. C'est, oh, créons une série avec une femme qui passe son temps à coucher avec des hommes beaux.
Un méga Marisou ?
Marisou. Marisou, c'est un terme utilisé dans les fanfictions quand tu crées un personnage principal qui est le reflet de toi-même, tel que tu le voudrais l'être et que tu le fais avoir des aventures avec les héros.
D'accord.
La prochaine fois, l'explication du terme lemon.
C'est quoi ?
C'est des fanfics de cul.
D'accord.
Voilà.
Ça m'a jamais plu, les fanfictions.
T'as lu des fanfictions ?
À l'époque où j'ai rencontré c'était les prémices du FLT, il y avait des fanfictions de X-Files, je crois, ou de Millennium, ou je sais pas quoi.
Mais ça, c'est passé dans...
Ben, je sais pas, non, mais c'était fait avec un peu de sérieux et tout, mais
j'ai pas
de mépris ou quoi que ce soit.
C'est
juste que ça m'a jamais intéressé.
Le
seul contact que j'ai eu avec les fanfictions, c'est ça.
Les fanfictions, c'est très intéressant à partir du moment où t'as deux personnages qui, dans l'univers réel, se détestent, mais qui au final se retrouvent ensemble. Genre Draco Malfoy et Hermione Granger. C'est merveilleux, les fanfictions.
Ah ouais, voilà, mon dieu. Donc c'est genre, je vais écrire un truc sur Vampire Diaries.
J'en ai écrit.
Oh, vraiment, moi je vais mettre Elena avec Damon et ils ont beaucoup d'enfants.
Quand j'avais
ça.
15 ans, j'ai écrit une fanfiction sur Harry Potter où il y avait Drago Malfoy et Hermione Granger qui finissent ensemble. D'ailleurs, les lecteurs qui arrivent à la retrouver gagnent un coffret DVD de House.
Parce que c'est sur internet, ce genre
oui,
de
oui, c'est
choses.
Sur internet.
Ah, mais c'est
et ça a eu beaucoup de commentaires. Donc si vous arrivez à retrouver ça, vous gagnez un coffret DVD de House.
Mm-hmm.
On fait gagner des trucs sur Perdusa, on est cool, ça nous fait de la pub.
Toujours est-il
toujours
qu'on
est-il que Wiz.
Sur Wiz, ouais.
Donc voilà, Wiz, j'aime pas le fait qu'une femme qu'une femme n'arrive pas à évoluer un peu hors de son, de l'utilisation de son cul pour réussir.
Mais pour moi, c'est pas vrai. Enfin, effectivement, c'est un personnage qui est toujours dans la séduction et qui, en général, a recours à la séduction pour se sortir de certaines situations. En même temps, c'est aussi un personnage qui nous a été toujours montré comme aimant le sexe. C'est pas du tout le personnage typique de la femme qui aime pas du tout le sexe, mais qui s'en sert pour dominer les hommes.
C'est pas Lynette Scavo.
C'est plutôt...
Ah, dans Desperate Housewives, on avait l'impression que vraiment...
Que vraiment, ah, bah,
ça fait
juste
trois semaines que j'y suis pas allé. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille parce que c'est mon devoir. Mais vraiment...
Non, mais c'est ça. Tout à fait. Mais d'ailleurs, pour moi, oui, ça a toujours été un peu l'anti-Desperate Housewives parce que au moment où les deux séries ont été lancées et où tout le monde s'extasiait devant Desperate Housewives, qui était une série vraiment très osée sur la vie en banlieue et la famille, là, c'est Wits qui finalement faisait un peu exploser les conventions. Mais ouais, toujours
c'est fou de
que
penser qu'il y a eu une époque où Desperate Housewives était politiquement correct et faisait exploser des...
Bah, tu reverras le pilote. Le pilote, il est génial.
Je m'en souviens et je suis tout à fait d'accord.
Le pilote, il est incroyable.
Mais c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment vieilli.
Ah non, c'est que la série, elle fait n'importe quoi. Au bout de
6 ans.
Ah non, pas au bout de 6 ans.
Non, mais là ça fait 6 ans quoi, qu'on en était là. L'époque où... Il y a eu quoi, 6 saisons, 7 saisons
8 saisons à Desperate Housewives.
Voilà. Et moi, quand j'ai découvert la série, l'époque où elle était considérée comme aventureuse, c'était il y a quand même 8 ans.
Ouais. En tout cas, ouais, Weeds, c'est une série avec laquelle j'ai un rapport particulier, puisque moi j'ai détesté les 3 premières saisons. Et à cause de mon côté névrotique qui fait que j'arrive pas à arrêter une série, j'ai vu plus de 4 épisodes, j'ai jamais arrêté Weeds. Et une fois qu'elle est partie sur les chemins, qu'elle est partie au Mexique, ça m'avait bien plu qu'elle soit enfin confrontée à vraiment ce que c'est l'univers de la drogue et pas juste je suis la gentille connasse avec mon sachet d'herbe et puis il y a 2-3 ratés qui font n'importe quoi et mes cookies, tout ça machin. Et voilà, c'est une série qui est vraiment très irrégulière, vraiment très inégale, mais qui tu parlais d'honnêteté, qui finalement est honnête avec ses personnages, qui nous les fait pas changer du jour au lendemain, qui assume tous ses cliffhangers, qui assume tout son passé. J'aime beaucoup le générique qu'ils ont mis en 8e saison. C'est-à-dire qu'ils assument et toutes les saisons sont assumées. J'ai pas lu, et j'ai pas envie de lire, mais j'ai pas lu d'interview de la créatrice en disant « Oui, c'est vrai qu'on avait fait n'importe quoi en saison 4 et 5 et 6, alors on a décidé de revenir aux sources ou quoi que ce soit. » Vraiment, tout est assumé. Dans la série, tous ces cliffhangers sont assumés. Ça m'a beaucoup plu et voilà, c'est. J'ai l'impression qu'on est parti pour avoir une bonne dernière saison.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une très bonne dernière saison.
Et en plus, moi, ce que j'aime dans Wits, c'est que c'est une série qui, pour le coup, a jamais eu peur d'essayer des choses complètement différentes, même quand c'était pas forcément nécessaire. Et il y a eu de gros ratages parce qu'effectivement, la série est très inégale, mais c'est aussi l'une des rares séries qui a osé virer la moitié de son casting régulièrement.
Et qui pourtant a réussi à ne jamais se débarrasser de Douille.
Oui,
ouais.
Alors ça,
je pense que c'est...
mais qui fait
et
aussi
là encore, c'est de l'honnêteté, c'est-à-dire que c'est la créatrice, parce qu'en gros, Célia, c'était le personnage le plus populaire de la série, et elle a quand même pris le risque de s'en débarrasser, parce qu'elle s'était bien rendu compte qu'elle ne savait plus quoi faire avec Doug, avec Célia, avec Doug. J'ai l'impression qu'elle a encore envie d'écrire pour ce personnage, donc c'est pour ça qu'elle le garde. Elle le garde pas parce qu'elle a un contrat. Et alors après, je vais apprendre dans 10 minutes qu'en fait, Doug c'est son mari dans la vraie vie. Donc, bon, d'accord.
Bah, sincèrement, moi c'est l'impression que j'ai parce que Doug, je le trouve lourd, je le trouve agaçant, je le trouve.
Oui, mais il fait malgré tout. C'est pas forcément.
J'ai l'impression que c'est le comic
c'est
relief.
C'est pas l'aspect que je
peu.
Préfère dans la série.
Pour moi, mais... Doug c'est vraiment le gros prétexte au comic relief de la série.
Ouais, mais c'est aussi un personnage qui est là depuis le début et qui, effectivement, il représente aussi un certain type d'humour de la série. C'est pas forcément ce que je préfère, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fin. Mais, et même la manière dont ils l'ont gardé, j'adore pas le personnage, mais dans les dernières saisons, ils avaient des... C'était enfin, le fait que le personnage reste m'a jamais semblé complètement forcé non plus.
Moi, j'ai trouvé ça pas mal forcé.
Et pourtant, c'est un personnage, moi ça m'aurait absolument pas gêné qu'il disparaisse.
Mais... Sincèrement, pour être honnête, je me souviens même plus de qu'est-ce qu'il fout pendant qu'ils sont au Mexique.
Bah, il fait des trucs avec Andy.
Il fait des pina coladas.
Mais moi, ce qui m'impressionne dans Witt, c'est surtout les deux gamins qui, pour le coup, étaient très mauvais l'un comme l'autre.
Le blond au début, était
vraiment catastrophique.
Et qui maintenant sont... Alors, je sais pas.
Non, mais c'est parce que Silas, c'est très bien développé.
Silas, ça fait plusieurs saisons qu'il est devenu exceptionnel.
Et physiquement ou dans son jeu?
Dans son jeu.
Les deux, d'accord.
Et Creepy Shane, il est génial, je trouve. C'est mon personnage préféré de la série maintenant, sincèrement. Et ouais, je l'adore. J'aime qu'il devienne flic. Je trouve que c'est joli comme idée.
Et oui, elle me plaît bien comme série parce que... En fonction d'où on est rendu, on peut se dire cette série est vraiment toute pourrie, fait n'importe quoi. Cette série ose des choses. Enfin, on a un avis qui change sur la série en permanence. Ouais. Et ce qui fait qu'effectivement, une série télé, c'est pas juste bien ou c'est pas juste pas bien. C'est qu'en fonction des épisodes, en fonction d'où on en est, ça évolue. Et voilà. Et à mon avis, on pourrait enregistrer le podcast dans 4 épisodes, voir que la série a foiré complètement sa fin. Que c'est affreux, que depuis le début, de toute façon, j'avais détesté les 3 premières saisons. Je savais que ce serait nul du début à la fin.
En fait, oui, ça a souvent des bons débuts de saison et des milieux de saison très très longuets et très très lourds, il me semble. Et derniers épisodes qui sont toujours. Ça, c'est une des grosses qualités que je reconnais à Weeds, c'est qu'ils ont les season finales et des season finales qui à chaque fois me laissent sur le cul.
Ben moi, je dirais que c'est les résolutions des cliffhangers un peu pourris de choquer pour choquer.
Sauf le Mexican, le fait qu'il les continue, c'est ça qui les rend bons. Tu vois un cliffhanger, tu sais qu'il va être continué. Et moi, quand je vois un Mexican stand-off et que je sais qu'ils vont trouver un moyen de s'en dépatouiller, bon, ça c'était quoi? C'était le cliffhanger de la saison 1, le premier?
C'est le
2, je crois.
Le Mexican stand-off.
C'est là où il y a 10 000 personnes qui arrivent dans la maison et tout le monde
peint des armes sur tout le monde et tout ça.
Je crois que c'est
la deuxième saison.
Et ça, j'avais trouvé ça jouissif au possible. Et ben, même la saison, il y a 2 saisons. Il y a eu la saison où il y avait le coup de Maillet, que je trouvais aussi génial.
Non, mais en général, ils ont réussi toute leur fin de saison. Le truc à l'aéroport, c'était... L'année dernière, où elle se fait tirer dessus dans une lunette, ce qui pour le coup était un cliffhanger digne de Dallas Nouvelle Génération, peut-être.
Alors là, c'est hors de question. Parce que les cliffhangers dans Dallas à Nouvelle Génération, ils sont hyper bien gérés. C'est-à-dire que justement, ce genre de cliffhanger...
Il a changé de pomme de douche.
Ce genre de cliffhanger, c'est, on les a, mais dans les épisodes intermédiaires. Par contre, le cliffhanger de la fin de saison, c'est juste des discussions entre personnages, de nouvelles alliances, et qui te permet d'ouvrir des bases vraiment intéressantes pour la deuxième saison. Et c'est pas juste est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir, est-ce qu'il est mort ou tout ça, c'est... Ah mon dieu, on a appris que Bidule était dans tel camp et tout ça.
C'est des choses que Will avait fait jusqu'à maintenant. C'était toujours des game changing plus que de savoir si la personne était morte. Des game changers plus que
et
savoir si la personne était morte.
Émotionnel parce que par exemple.
Voilà. Ça c'est Dallas Nouvelle Génération. C'est du cliffhanger émotionnel.
Tout à fait.
Ah non mais c'est hyper bien.
D'accord.
Mais Ferti c'est d'accord avec moi et plein d'autres gens. Formidable. Jus est mis à Dallas et pense que c'est la meilleure série du monde.
Arrête de prêter n'importe quel propos à Jus sous prétexte qu'il n'écoutera jamais notre podcast. Donc, tu disais quelque chose. Attends, je suis sûre que Julien allait dire quelque chose d'intéressant.
Non, mais c'était sur les cliffhangers émotionnels. Ouais, sur le fait qu'effectivement, même les cliffhangers les plus choquants, genre Shane qui donne un gros coup de maillet dans la tête de
c'est
la méchante,
ouais,
finalement l'intérêt c'est pas vraiment. On sait qu'après, pendant une saison, ça va être compliqué parce qu'il a tué un baron de la drogue et tout. Mais l'intérêt c'est surtout effectivement que ça nous ramène
qu'il a tué
au
quelqu'un.
Sens de la série qu'elle a pas très bien réussi l'éducation de ses enfants,
c'est
qu'elle les a un peu négligés. Et qu'elle le paye. Et c'est ça l'intérêt pour moi de la série. Et c'est pour ça que je suis très content de cette saison. Et on va peut-être conclure là-dessus. Qui justement se recentre un peu sur
la famille.
Sur ces 3 gamins qui ont beaucoup de problèmes.
Mais sincèrement, moi, c'est ce que j'attendais un peu la saison dernière. C'est ce que j'attends depuis longtemps. C'est que ça se ressente sur la famille. Parce que pour moi, Witt, à chaque fois que ça traitait des rapports familiaux, ça avait beaucoup, beaucoup de qualités que je retrouvais dans peu d'endroits. À peu d'autres endroits, et que là, ben, c'est enfin peut-être l'occasion de vraiment se recentrer là-dessus. Et que c'est, pour le moment, c'est très très bien fait. À part Nancy qui est toujours un petit peu à côté de la plaque, mais les relations entre Shane, Silas, Et même avec Andy aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans la série, et c'est quelque chose que je retiendrai pendant longtemps, c'est que de ce point-là, même si la mère était un petit peu à l'écart, le reste de la famille avait des interactions très très intéressantes. Voilà.
On pourrait enchaîner sur The Newsroom, mais comme Iris et moi, on est tellement en désaccord, on risque de se hurler dessus comme sur Breaking Bad pendant une demi-heure,
ça va être complètement stérile. On va faire un drinking game avec ça, en fait.
Mais je pense que on n'a pas grand-chose à dire, grand-chose d'intéressant, puisqu'on n'aime pas la série.
Et tout le monde en parle tellement, The Newsroom, de toute façon. Moi, je trouve que c'est une bonne série qui me fait vibrer vraiment, parce que ça m'évoque des choses qui m'intéressent et qui me fascinent, et que c'est écrit avec maestria. Et toi, t'aimes pas ça à cause du traitement des femmes, entre autres.
Et je crois que t'as d'autres réserves, quand même.
Oui, non, mais moi aussi, j'ai eu des réserves sur l'épisode sur la mort de Ben Laden, parce que ça me gênait qu'on ait un traitement aussi one-sided, on va dire, d'une nouvelle qui a quand même, moi qui m'avais laissé, même moi qui suis pas américaine, ça m'avait laissé très, 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 on va dire, mixé dans mes sentiments, dans ce que je pouvais ressentir. Mais en même temps, voilà, on n'est pas new-yorkais, on n'est pas américain. La manière dont nous, on a perçu la mort de Ben Laden, non seulement on ne peut pas prétendre ressentir la mort de Ben Laden de la même manière que eux l'ont ressenti, et puis aussi, je trouve que c'est peut-être une espèce d'illustration de ce que The Newsroom est, c'est que c'est une série sur une équipe qui parle de l'actualité, et donc la série se concentre uniquement sur l'annonce de l'actualité, sur le traitement de l'information plus que sur le jugement qu'on peut porter sur l'information. Du coup, je trouve ça au final logique qu'ils aient pas vraiment de réflexion éthique sur la news, parce que c'est pas le boulot des journalistes d'information.
Pourtant, c'est quand même le contraire de ce que fait comment il s'appelle, Will McAvoy. Oui. Il donne son avis sur les infos. Bah si, c'est ça.
Pas tant que ça.
Ben sur le Tea Party et tout ça, quand il détruit les gens du Tea Party, etc., quand il va pousser les gens dans le retranchement et dans les... il s'est déclaré comme républicain, et c'est pour ça qu'on est surpris qu'il donne son avis. C'est vraiment, là pour le coup, c'est une forme de journalisme engagé que fait Will McAvoy. C'est pas BFM TV, et on balance platement les dépêches AFP qu'on a illustrées avec... les moyens qui nous sont donnés.
Non, ce qu'il essaie, c'est de faire un traitement plus intelligent de la news, mais il se contente quand même de donner, enfin il donne quand même en grosse partie l'information plus que d'en faire une critique, ce qui peut être le cas dans des émissions type bon, là je parle en termes satiriques parce que c'est tout ce que je regarde comme émission de news, mais comme Jon Stewart ou Stephen Colbert peut le faire, c'est-à-dire un traitement très très critique de l'information, ou bien les Weekend Update dans le Saturday Night Live, de l'information avec une pointe critiquée au travers de l'humour, lui je trouve qu'il reste quand même très dans la...
Sorkin ?
Ben, Will McAvoy. Il reste dans la transmission de l'information avant tout. La transmission des informations d'une manière que lui juge plus intelligente, mais il n'est pas hyper ultra critique, il n'impose pas sa vue. Et ce qui s'est passé avec le 11 septembre, je pense pas que tu pouvais voir beaucoup de... Que le soir même, tu pouvais voir beaucoup de journalistes être critiques avec ce qui s'était passé. C'était le soir même, c'était USA, USA, USA.
Oui, mais la base de The Newsroom, c'est quand même interroger le traitement qui a été fait de l'information et de donner la vision que ce traitement aurait dû avoir selon professeur Sorkin.
Ouais.
Mais sinon pourquoi reprendre une actualité réelle?
Bah pour montrer le traitement, pour montrer que la manière dont les médias américains gèrent les choses, elle est peut-être pas optimale. Mais il fait plus un jugement
de valeur.
C'est ce
que nous dit Aaron Sorkin.
Il fait un jugement de valeur.
C'est le jugement de valeur d'Aaron Sorkin.
Il fait un jugement de valeur.
C'est le constat.
Attends. Il fait un jugement de valeur sur la manière dont l'information est transmise. Pas sur l'avis qui est transmis au travers de la transmission de l'information.
Oui, mais sauf qu'en tout cas, ce qu'il nous montre, c'est le constat que lui fait. Et ça ressemble à peu près à... la vision que Sorkin estime la meilleure pour le traitement d'information. Et sauf qu'au milieu de tout ça, il n'arrive pas à faire vivre des personnages
moi, je trouve que si.
Épais.
Et d'ailleurs, voilà, la preuve, c'est que on est profondément pas d'accord, parce que moi, l'épisode, passé les deux premiers épisodes, l'épisode que j'ai le moins aimé, le dernier épisode en date, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé, parce que c'était un aspect beaucoup trop sériel, enfin, beaucoup trop série TV, alors que justement, jusqu'à présent, c'était très très ponctuel et que je m'y étais attachée à ce format très très ponctuel, très très... Plus sur des aspects événementiels que sur des aspects sériels de développement de personnages. Tu vois, c'est un peu comme... c'était à chaque fois une news importante. Et dans le cas des personnages, c'était plus la manière dont ils traitaient l'information qui m'intéressait que le développement des personnages. Sincèrement, les personnages, il y a un petit triangle amoureux, mais je m'en fous des personnages en soi. Sincèrement, je m'en fous. Mais moi, voir la mort de Ben Laden représentée.
Ce qui est étrange, que t'aies pas aimé le dernier épisode où, à mon sens, c'est l'épisode où Sorkin.
Il critique la.
Critique le mieux une façon de.
Parce que moi, c'est pas la critique qui m'intéresse, c'est de revoir ces événements traités, enfin, c'est de revivre ces. Enfin, c'est des événements que j'ai vécu au travers des émissions de news que je regarde. C'est des événements que j'ai vécu, et là je vois un peu le making-of. C'est comme quand tu regardes le making-of d'une série TV que t'as aimé. Là je regarde le making-of des salles de préparation de journaux télévisés au moment où ces choses se passaient. Et moi, voir, ça m'avait fait pleurer la mort de Ben Laden, et ben ça m'a de nouveau fait pleurer de voir comment ils ont pu traiter la mort de Ben Laden, comment peut-être aussi fantasmatique que ce soit, enfin peu importe à quel point c'est imaginé ce qu'il a écrit. Ça m'a quand même beaucoup profondément touché de voir une équipe de journalistes s'occuper du traitement de l'information le jour de la mort de Ben Laden. Enfin, du meurtre de Ben Laden.
En tout cas, s'il y a vraiment un souci supplémentaire avec cette série, c'est sur le passage du temps. Comme dans Breaking Bad, en 7 épisodes, il s'est quand même passé plus d'un an.
C'est vrai.
Et c'est quand même relativement compliqué de gérer des personnages que l'on voit en gros 24 heures. Les épisodes en général, ça dure pas très longtemps. Ça dure 24 heures, sauf un épisode.
Et
on a un épisode qui est sur 6 mois ou 10 minutes. Et puis paf, c'est un mois après, etc. Ouais. Donc effectivement, les relations.
Et c'est là où il y a un souci.
Tu nous dis qu'Aaron Sorkin a une écriture formidable, etc.
Ouais.
Sauf qu'il n'arrive pas à faire vivre des personnages.
Mais c'est pas grave, ça, pour moi, parce que je regarde ça comme je lis du Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, je le lis pas pour l'intelligence de ses caractères. Bien sûr, je le lis pour un petit style qu'ils ont, leur petit côté cynique et tout ça. Mais je le lis parce que chacune de ses phrases, j'ai l'impression que je pourrais me branler après les avoir lues, parce tellement c'est beau. Et les dialogues de Sorkin, c'est exactement ça. C'est magnifiquement écrit. C'est de l'écriture élevée au niveau d'art. Moi, je suis ressortie de The Social Network, je me suis dit, putain, j'écrirai plus jamais une seule ligne de dialogue de ma vie parce que tout a été fait. C'est comme, je pense que c'est comme un peintre qui voit une toile qui serait parfaite.
Sans le fond, c'est tu fais une apologie de la forme.
Ouais, je fais une apologie de la forme.
Une apologie de la forme, sauf que la forme sans le fond, ça marche pas, ça marche jamais.
Non, ben si, quand
ça ne marche jamais.
Je vais dire. Je vois pas du tout quelle expression je pourrais utiliser, mais on va dire de l'esthétique audio, d'un point de vue esthétique audio.
Si
ouais, moi je trouve que c'est de la poésie, la manière dont il utilise le langage, c'est de la poésie, c'est quelque chose. Enfin, moi, bon, là j'ai pas d'exemple qui me viennent de The Newsroom. Enfin, si, j'en ai quelques-uns, mais je vais revenir à l'exemple qui m'a le plus marqué avec Aaron Sorkin, c'est le dialogue d'ouverture de The Social Network.
Ouais, mais attends, non, ça, je suis pas d'accord. On parle de The Newsroom. Moi, je peux prendre aussi. Il y a plein de choses qu'Aaron Sorkin a écrites que je trouve très bien sur le fond et sur la forme.
Le moment où il fait la morale à la petite adolescente. C'était pas bien que ce soit une fille. Remplaçons ça. Sortons-le de son contexte. Sortons totalement.
Mais non, tu ne peux pas.
Si, je vais sortir là.
Parce que c'est une série télé, c'est pas.
Parce que je vais prendre l'extrait audio. J'écoute l'extrait audio. Je me suis repassé 50 fois la bande-annonce. Et à chaque fois, ça me fait la même émotion, ça me prend au trip. C'est quelque chose qui est waouh.
Mais c'est pas pour ça que The Newsroom est une bonne série. Tu reconnais que toi, tu aimes l'aspect poétique.
Sincèrement, je peux pas juger de la qualité de la série. Je sais qu'elle me procure énormément de bonheur. Peut-être que c'est pas une bonne série, ok, mais je sais que c'est une série dans laquelle je prends un plaisir absolument fou parce que je la trouve écrite avec un brio pas croyable. Je trouve que ces dialogues sont écrits avec un brio et un talent très très rare à la télévision. Et que c'est de la poésie plus que... Il y a des gens qui écrivent des romans, il y en a d'autres qui écrivent de la poésie. Ben, Aaron Sorkin écrit The Newsroom, c'est le petit recueil de poésie de Aaron Sorkin. Des poèmes qui se concentrent à chaque fois sur
une situation précise. C'est dommage que le poète soit complètement misogyne et qu'il utilise son art pour enfoncer à la fois les femmes et être péremptoire et prendre de haut ses spectateurs. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. The Newsroom, puisqu'on a dit qu'on n'en parlait pas.
Le titre de ce podcast, ce sera Conflit.
Conflit, il faudrait une série sur laquelle on va être d'accord. Ah bah tiens, une série sur laquelle tu ne vas pas parler. On va parler de
True
Blood.
Oui, allez-y. Je vais fumer une cigarette.
True Blood qui en est à sa cinquième saison. C'est la dernière qui va être showrunnée par Alan Ball.
Oui, qui apparemment a dit qu'il trouvait ses scénaristes tellement géniaux et tellement
dans la maîtrise de leur
série que vraiment il n'avait plus besoin du tout de travailler sur la série et qu'il pouvait passer à autre chose. Tu as vu les premiers épisodes seulement, c'est ça ?
Effectivement, par habitude, j'ai continué à regarder True Blood. Et au bout du quatrième ou du cinquième épisode, j'ai été hébété puisque j'étais là, mais c'est pas possible. Je comprends pas la moitié de ce qui se passe, pas parce que c'est compliqué, mais parce que ça m'intéresse, mais pas du tout. Donc j'oublie d'un épisode à l'autre les enjeux. Et puis alors, ce que je comprends me satisfait absolument pas du tout. Essentiellement, l'intrigue avec Terry, les militaires et tout ça. C'est pas très bien compris. Et puis, effectivement, je suis plus attaché à qui que ce soit. Le côté porno soft qui a pu faire passer tout un tas de choses. Là, il est quasiment absent, ou en tout cas même...
Moi, je trouve qu'au contraire, il est... Enfin, déjà, effectivement, il est moins présent. Mais avant, la série, dans les premières saisons, l'intérêt, c'est que c'était des scènes porno soft, mais qui avaient toujours un côté un peu gore, qui au moins rendait... ça un peu surprenant et un peu intéressant, alors que maintenant c'est juste du porno soft. Enfin, il y a la moitié des scènes de cul qui sont juste des scènes de cul mises en scène pour exciter, mais sans rien proposer.
C'est pas
avec,
un vampire, soit, voilà. C'est pas...
Non, bah non, parce que maintenant c'est des loups-garous ou des fées, donc il n'y a pas de côté gore, il n'y a pas de sang, enfin de temps en temps il y en a, mais... non, mais c'est très mauvais, hein, de toute façon. Moi, ce qui me dérange dans la série, mais j'en ai déjà parlé sur le site, donc je ne vais pas le refaire, c'est effectivement qu'elle cherche à être... Enfin, qu'elle est extrêmement maladroite dans son discours, puisque au lieu d'admettre que peut-être qu'une série sur des vampires, des loups-garous, des fées et des ifrites qui viennent d'Irak ne peut pas forcément dire des choses intelligentes et de se cantonner à essayer de nous divertir, elle passe son temps à faire à essayer de faire des discours un peu moralisateurs qui sont complètement embrouillés du fait que elle nous parle de minorités oppressées qui sont les vampires ou les loups-garous. Et qui sont considérées comme dangereuses par des gens soi-disant extrémistes, sauf que chaque épisode nous montre qu'effectivement, ces minorités oppressées, ben, peut-être qu'il faudrait effectivement les exterminer parce qu'elles sont sacrément dangereuses et qu'elles essayent d'envahir le monde à peu près toutes les 30 minutes. Donc voilà, la série a ce défaut. Et puis après, accessoirement, c'est une série qui a jamais su quoi faire de la moitié de ses personnages, qui a jamais eu le courage, contrairement justement à Wits, de virer un peu de son casting les personnages qui servent à rien, et qui du coup est complètement éparpillé. Chaque intrigue avance à peu près 3 minutes par épisode, et les seuls épisodes un peu intéressants sont ceux où justement ils virent la moitié du casting pour faire avancer 2-3 intrigues, et où on a vaguement l'impression qu'il s'est passé quelque chose à la fin.
Qu'est-ce qui se passe du point de vue des nouveaux super vampires là de donc c'est qui sont dirigés par Christophe Meloni là le mec de
Alors en fait Christophe Meloni ne sert à rien, c'est-à-dire que pendant 6 épisodes il est à la tête de ce truc
avec l'enfant avec la fille de Cougar Town,
avec
un mec
de
Spartacus.
La vieille cougar, en fait.
La vraie cougar, la seule cougar de Cougar Town.
Qui est plus du coup dans Cougar Town, c'est bien dommage. Non, mais en fait, il se passe rien, c'est-à-dire que pendant 6 épisodes, Il n'arrête pas de hurler qu'il faut vraiment être les amis des humains parce que sinon les vampires se feront exterminer, sachant que malgré tout, à chaque épisode, dès qu'ils tombent sur un humain qui les dérange, ils le massacrent parce qu'au fond, c'est quand même des gros méchants. Et puis en fait, quelle surprise, la princesse juive du Nouveau Testament avec qui il couche et qui, dès le début, explique « Ah, tout le monde pense que je suis... » Voilà, Salomé. Tout le monde pense que je suis... que je suis une traîtresse, alors que c'est pas vrai, c'est une traîtresse, donc il meurt, il se fait tuer. Mais il a servi à. Enfin, c'est très mystérieux, le personnage n'a servi à rien. Et ensuite.
Il se fait tuer ?
Ah oui, il est mort là.
Christophe Meloni ?
Oui, au bout de 6 épisodes, mais il n'a rien fait du tout dans la série. Et du coup, maintenant, c'est donc Salomé, sa copine qui a poil à chaque épisode.
Mais pourquoi c'est tombé ?
C'est pas grave.
Il y a un livre qui est tombé d'une étagère.
Ouais, c'est un ifrit. Et du coup, maintenant.
Ah, il faut pas tirer du mal de tout le monde.
Ce qui est quand même très terrifiant dans la série, c'est qu'effectivement, dans les mêmes épisodes où ils essayent de nous montrer que, au fond, ne pas aimer les vampires, c'est un peu comme être antisémite dans les années 30, et on a un espèce de clan secret de vampires qui a pris le contrôle des médias. Qui vénèrent un dieu unique tout en pensant qu'ils sont élus, qui fait des sacrifices humains et qui a décidé d'envahir le monde.
Ah là là.
Et c'est superposé à une autre intrigue où en gros il y a une espèce de Ku Klux Klan qui s'attaque aux vampires, sachant qu'il y a un noir dans le Ku Klux Klan du coup pour bien nous montrer que c'est vraiment en fait les vraies victimes sont les vampires dans cette affaire. À un moment je trouve que autant de maladresse sur des sujets pareils, c'est un peu indécent de la part des scénaristes de pas.
Bon, c'est de la bêtise, ça devient de la bêtise.
Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il y a. C'est presque drôle à regarder. Voilà. Bon.
Moi, j'ai pas. Est-ce que tu peux me résumer en 2 minutes l'intrigue avec. J'avais trouvé son nom là tout à l'heure. Ouais, c'est ça.
C'est pas vrai, oui. En fait,
apparemment, elle est finie celle-là aussi.
Oui, ce serait bien qu'elle soit pas finie parce que la fin est affreuse, mais je pense qu'elle est finie. Donc, le cuistot,
oui, c'est ça.
Terry, est hanté par un ifrit parce qu'on a un flashback qui nous révèle que pendant qu'il avait fait la guerre, pendant qu'il était en Irak, parce que maintenant, True Blood, ça se passe dans le monde réel. Ils font des références à Obama sans arrêt et à la guerre en Irak. Et quand il était en Irak, un jour ils ont fait la fête dans un village, puis il y a un Irakien qui vaguement leur a dit vous faites trop de bruit, donc ils ont mitraillé tout le village. Et ils ont fait ah mais zut, peut-être qu'on n'aurait pas dû, c'est quand même pas très cool, tant pis. Et il restait une vieille femme irakienne qui n'était pas morte, donc du coup Terry a décidé sur les ordres de son chef. Son chef lui a dit il n'y a qu'à la tuer, comme ça elle parlera pas. Et du coup, il a fait ok. Donc il l'a tuée. Et évidemment, comme elle était irakienne et vieille, elle avait des pouvoirs magiques, donc elle l'a maudit. Et du coup, maintenant, il y a un ifrit qui le poursuit et qui a tué tous les autres militaires de cette unité. Et donc maintenant, il veut tuer Terry et son chef. Donc déjà, c'est une intrigue qui n'est pas du tout caricaturale ou raciste, mais. Le premier problème, c'est qu'effectivement, toute l'intrigue repose sur le fait que ce pauvre mec qui a tué une vingtaine de villageois irakiens, au fond, comme il est désolé, c'est pas vraiment de sa faute, donc il devrait pas avoir à assumer les conséquences. Surtout, la conclusion de l'intrigue est absolument horrible, puisque la femme irakienne qui était morte apparaît sous forme de fantôme et dit à Terry si tu veux que je t'épargne et que je t'envoie plus l'ifrit, il faut que tu tues ton chef de l'époque, ton chef militaire de l'époque. Donc du coup, Terry, après beaucoup de rebondissements pas très intéressants, se retrouve avec une arme braquée sur son chef militaire de l'époque. Et là, son chef lui fait une remarque en lui disant « Mais tu sais, au départ, moi je t'ai ordonné de tuer cette femme et c'est pour ça qu'on en est là. » Donc si tu fais ça, tu commets la même erreur. Donc là, je me suis dit bêtement, il y a quand même une petite critique sur le fait qu'il ne faut pas suivre les ordres bêtement et que tuer pour sauver sa peau, ce n'est pas forcément super. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, Terry dit, je m'en fous, il tue le mec. Et du coup, la vieille femme irakienne apparaît en fantôme et fait, le sang a été payé par le sang, donc je te pardonne. Et elle se barre.
Et voilà, donc la morale de la série, c'est que effectivement, tuer pour sauver sa peau, c'est bien. Voilà. Écoutez, c'est sur ces paroles qu'on peut peut-être terminer la première partie de ce podcast qui dure depuis maintenant un peu plus d'une heure et quart. Comme ça, pouvoir faire un petit thé, tout ça. Et puis, on se retrouve pour discuter dans la deuxième partie de Wilfred, de Political Animals, de ce qu'on attend de la rentrée, de peut-être
Teen Wolf,
tout ça. À tout à l'heure, à bientôt.
Une deuxième partie très gay-friendly.